en ce 15 mai, j'ai pensé consacrer l'émission à Frédéric Ozanam, un laïc, qui va être béatifié le 22 août 1997. On le considère comme le fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul dans la première moitié du siècle dernier. Cette société extrêmement importante qui comprend près d'un million de membres dans le monde entier. Actif. Je vous avais fait une émission sur lui le 11 septembre 1995 et je ne ferai pas du tout la même émission aujourd'hui puisqu'il sera beaucoup question de béatification, du miracle qui a mené à sa béatification, un bref résumé de sa vie et surtout des grands saints qui l'ont inspiré, Saint Vincent de Paul et Saint François d'Assise. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Être béatifié dans l'Église catholique, c'est bien des choses, mais auparavant, je voudrais vous dire que ça prend un miracle. Et aussi, le miracle qui est survenu en 1926 et qui a été mis en valeur ces dernières années est absolument étonnant et je vous le raconte brièvement. Le pape a signé le décret sur l'héroïcité des vertus le 6 juillet 1993, hein? Et donc depuis 1993, on peut dire le vénérable Frédéric Ozanam, qui était un grand intellectuel et un ami des pauvres. Vous allez voir, c'était un saint merveilleux. Aussitôt après ce décret du pape, en 1993, on a commencé le travail de documentation sur un miracle de 1926. Il s'agit d'une guérison d'une diphtérie maligne d'un petit garçon de Rio de Janeiro, en Amérique du Sud, Fernand Louis Benoît Ottoni. C'est survenu le 3 février 1926, l'année de ma naissance. Fernand Louis Benoît Ottoni était né 2 ans plus tôt, en 1924. Et puis, il est âgé d'à peine 18 mois lorsque le 2 février 1926, à Rio de Janeiro, il est atteint de diphtérie maligne et se meurt. Et le docteur Brown, B-R-A-U-N-E, Alberto Brown, explique à la mère que la situation est très, très, très grave. Il faut dire qu'à cette époque, hein, sans antibiotiques, la mortalité était très élevée. 62% des cas, là, comme ça, mourait. La guérison rare, très lente, ça pouvait arriver. Le père de l'enfant, qui est un avocat, Pio Benedetto Ottoni, se trouve à 180 km de là pour une cause urgente en faveur d'un client pauvre. C'est un avocat des pauvres. Un télégramme de sa femme lui demande de rentrer à la maison où l'état de leur enfant s'aggrave. Avant de partir, il se tourne vers son père, le grand-père là, du petit garçon. Et puis, il s'appelle Cristiani Ottoni. Il est secrétaire général de ce qu'on appelle les conférences de Saint-Vincent de Paul à Rio de Janeiro. Les conférences, c'est pas des conférences comme on l'entend habituellement, puis je l'explique pour ceux qui l'ignoreraient. Ce sont des regroupements de catholiques actifs dans l'esprit Saint-Vincent de Paul, ce grand saint qui a vécu il y a quelques siècles, un prêtre qui s'est beaucoup occupé des pauvres. Et alors donc, il est secrétaire général des conférences de Saint-Vincent à Rio de Janeiro. Puis c'est un homme qui admire beaucoup Ozanam. C'est un homme qui prie Frédéric Ozanam. C'est un homme qui se modèle sur Frédéric Ozanam. Alors il s'agenouille. Et il prie celui qu'il considère comme le serviteur de Dieu, dont la cause venait d'ailleurs d'être introduite à Paris. Et ensuite, il se tourne vers son fils, l'avocat, et le rassure, puis lui dit, « Mon fils, pars tranquille. Fernando va guérir. » Or, écoutez bien ça, rentré chez lui, il trouve sa femme réjouie par la guérison soudaine de l'enfant, qui avait commencé à boire du lait sans aucune difficulté. C'était l'heure même où le grand-père Cristiani Ottoni avait parlé, après avoir prié. le docteur Alberto Brown, venu pour signer l'acte de décès avec son fils médecin Silvio Brown, stupéfaits, tous les deux, ils n'ont pu que constater la guérison. On a demandé l'avis d'un médecin de Rome, interrogé sur le cas, le pédiatre Filippo Vercellio, qui dans deux rapports a conclu que la guérison de l'enfant, instantanée, complète, durable, dépassant les lois de la pathologie, doit donc être attribuée exclusivement à une intervention miraculeuse, supranaturelle et divine. Mais pourquoi tant chercher à ce qu'il porte le titre de bienheureux? Ça vient du latin, hein? Beatus, heureux. C'est ça que ça veut dire. Beatus, heureux. Heureux. Frédéric Ozanam. Heureux. Il est heureux, il est avec Dieu. C'est le titre donné par l'Église à une personne dont la vie chrétienne est proposée, dit-on, en exemple. En exemple. Et qui, pour cette raison, est béatifiée. Le terme bienheureux signifie qu'aux yeux de l'Église, cette personne a été, dit-on dans les textes, admise à partager pleinement le bonheur de Dieu, voyez-vous. Et le titre est attribué par un décret, le promulgué par le pape, en général, au cours d'une cérémonie, une liturgie solennelle de béatification qu'il préside lui-même. Ça se tient habituellement dans la grande basilique du Vatican, mais il y en a ailleurs parfois, surtout depuis quelques années. Et la béatification, c'est l'étape qui précède, quoi? Évidemment, la canonisation, où la personne va porter le titre de saint ou de sainte. Un culte public, mais restreint, là, peut être rendu à un bienheureux dans les limites autorisées dans chaque cas par le pape. Alors, je vous explique encore quelques... C'est pas long, ça va durer 2-3 minutes. Ce culte public se traduit donc par l'attribution d'un jour de fête, là, sur le calendrier, généralement le jour anniversaire du décès. C'est ce que je fais, moi, je parle toujours le jour du décès de ces grandes et merveilleuses personnes dont je vous parle, parce que c'est leur naissance au ciel, leur rencontre définitive avec Dieu, quoi, avec la très sainte Trinité. Alors, ça peut être célébré avec honneur plus ou moins solennel, qui est rendu au saint ou au bienheureux pendant le fils de la messe du jour de sa fête. Vous savez qu'il n'y en a rien qu'à peu près 80 dans l'année des saints que l'on fête d'un bout à l'autre de la terre. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. C'était grandement réduit. Mais on peut les célébrer localement, comme on fait, nous, pour nos saints ou nos bienheureux québécois. Alors, le culte public se traduit aussi par la possibilité d'exposer des images, puis des reliques même dans les églises. Des reliques, vous direz, pourquoi des reliques? Ce sont des ossements, des morceaux de son corps, qui a été le temple de la très sainte Trinité. Ce corps qui a servi à pratiquer la charité, ce corps qui s'est donné entièrement aux pauvres ou à l'adoration de Dieu. Ce corps qui unit à l'âme, forme l'être humain. Le corps, c'est une partie intégrante de notre humanité. Nous ne sommes pas que des âmes. Et ces reliques sont très précieuses. Ne pensons pas que c'est rien du tout. Enfin, quand elles sont authentiques, c'est intéressant. On peut les vénérer et penser que cet être humain, dans son corps, a servi Dieu d'une façon héroïque, avec un amour qui déborde presque l'entendement des fois, dans certains cas. En outre, le saint ou le bienheureux peut être pris comme patron. Moi, mon patron, c'est Saint Raymond. Bon, Saint Raymond Nonna, qui veut dire qu'il n'est pas né nonnatus, puisque sa mère est morte avant sa naissance et on a dû l'extraire du corps de sa maman. Et ça peut être le patron d'une paroisse, évidemment, d'un endroit, d'un lieu. Puis le tout dans les limites définies par l'autorité ecclésiastique, évidemment. Il faut qu'il y ait de l'ordre un peu là-dedans. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est précisément dans le degré d'extension du culte public que réside, on peut dire, la principale différence pratique entre béatification puis canonisation. Alors, le culte public du bienheureux est limité. Il n'est autorisé que là où le Saint-Siège, là, le Vatican, le prévoit. Celui du saint est autorisé parfois prescrit partout dans l'Église universelle. Alors, il y a deux ordres de faits qui doivent être démontrés pour aboutir à une béatification ou à une canonisation. Qu'est-ce qu'il faut prouver? pour prouver le rayonnement spirituel du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu après sa mort. Rayonnement spirituel. C'est un signe de sa participation à la sainteté de Dieu, car toute sainteté vient de Dieu. Puis c'est un signe, ou une assurance, si vous voulez, que son exemple est accessible et bienfaisant pour l'ensemble des chrétiens, plus particulièrement des catholiques, évidemment. Son martyre aussi, puis ses vertus chrétiennes. Les vertus, dans le cas de Zanam, sont, en l'absence de martyr, qui est la mort subie par fidélité, n'est-ce pas, à la foi, un martyr, c'est quelqu'un qui veut rester fidèle, 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 et on l'assassine, on le tue, à cause de sa foi. Alors, les vertus de Zanam, ben, c'est la marque d'une foi vivante, puis la démonstration que la sainteté est accessible à l'être humain. On le voit bien, et quand on lit son testament, on voit qu'il se considère comme pas grand-chose, et un pécheur. Il demande qu'on prie pour lui. Puis il dit de cesser de penser qu'il s'en va au ciel directement. Et enfin, il faut affirmer que dans la pensée catholique, un saint, c'est pas d'abord un héros puis un modèle de vertu, une sorte de personnage sacré ou un demi-dieu. Et Frédéric Ozanam n'était pas comme ça. Comme nous chantons chaque dimanche à la messe, Dieu seul est saint, hein? Saint, saint, saint est le Seigneur, est Dieu, quoi. Donc, si un homme ou une femme est déclaré saint, c'est qu'il apparaît comme un miroir, quoi, de la sainteté de Dieu. Et un saint, c'est une personne ordinaire, dont le seul mérite est de n'avoir pas fait obstacle au choix de Dieu sur lui. Il a dit oui, comme la Sainte Vierge qui a toujours dit oui. Un saint dit oui. Oui. Tous les jours, le matin, le midi, le soir, tout le temps. À vrai dire, pour les chrétiens, tous les hommes, grâce au Christ, sont appelés à refléter la gloire du Seigneur. Un saint, on le sent d'ailleurs, il reflète, on appelle ça la gloire du Seigneur. J'en ai déjà parlé quand je vous ai fait une émission il y a quelque temps. C'est cette espèce d'irradiation, cette lumière qui n'est pas palpable, que l'on ne voit pas, mais que l'on sent. Mais aucun humain ne peut être un modèle de vertu par sa propre force, c'est sûr, hein? Et par contre, certains se sont ouverts davantage à Dieu, à son esprit, puis reflète plus clairement que d'autres son amour. Et c'est pourquoi ceux-là deviennent des modèles. Et c'est pourquoi Frédéric Ozanam va bientôt devenir un bienheureux. Il sera béatifié au mois d'août prochain. Je vous rappelle qu'il est né le 28 avril 1813 à Milan. Je suis allé l'été dernier et j'ai vu l'endroit où il a été baptisé. Et il y a un signe. Son père s'appelait Jean-Antoine Ozanam. Sa mère, Marie Nantas. Ils étaient originaires de Lyon, puis ils sont retournés à Lyon définitivement en 1815, donc 2 ans après la naissance de Frédéric. Mais Frédéric était le cinquième de 14 enfants. C'est incroyable, hein? Dont 4 seulement ont survécu. Alors, il a vécu dans une famille chrétienne. Il est allé dans un collège à Lyon. Il y a eu une influence d'un prêtre, surtout l'abbé Noirot, en philosophie. Il était bon aussi en grammaire, en écriture. Il est devenu bachelier à 16 ans. Puis, il est devenu finalement avocat. Il est entré à la faculté de droit à Paris. Puis, il est devenu avocat. Il a tenu sa licence en 1835. Et puis, il a fait une première réunion, là, en 1833, d'amis. Je vais tout vous raconter ça. Puis il a été reçu docteur en droit. Puis il aurait gagné Lyon après ses études. Il s'est inscrit au barreau, il a 23 ans. Il a achevé des études de lettres. Il a fait une thèse de doctorat sur Dante. Puis il a été reçu premier, c'est un intellectuel, hein, au premier concours pour l'agrégation de lettres, en 1840. Et ses parents, quand ils sont morts, bien, il est devenu professeur à la Sorbonne, à 28 ans. Il s'est marié, puis il a eu une fille, Marie. En 1846, il était titulaire depuis 2 ans de sa chaire en Sorbonne, puis il était à l'apogée de sa carrière, puis il commençait à être malade. Là, il a beaucoup voyagé. Puis l'année précédant sa mort, il a été obligé d'abandonner son enseignement, puis il est mort. En 1853, il était à Pise, il a failli mourir là, il est mort finalement à Marseille, dans le sud de la France, le 8 septembre, le jour de la nativité de Marie, à 40 ans. Vous savez qu'à l'unanimité, ses contemporains, les gens qui l'ont très bien connu, c'était pas un homme secret et effacé. Mais ils ont reconnu son intelligence et sa bonté, qui illuminaient son visage, une très belle tête. Il avait des yeux gris, qui prenaient un éclat particulier sous l'effet de l'émotion, puis de la passion, car c'était un être passionné et extrêmement sensible. C'était parfois la source d'une certaine anxiété chez lui, mais sa passion pour les pauvres était immense. Et quand il enseignait à la Sorbonne, il avait une grande vivacité dans ses gestes, mais aussi une grande délicatesse, une ouverture d'esprit immense. Et puis c'était un homme qui aimait converser. Vous savez, dans ce temps-là, on conversait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus, je pense, converser. Il avait donc ce goût pour la conversation, pour les échanges, les discussions. Il avait un besoin intense, c'était comme un don exceptionnel chez lui, un besoin intense d'amitiés nombreuses, des amitiés variées, fidèles, comme je l'envie. Et on pourrait parler aussi d'une espèce de charisme personnel, quelque chose d'un peu secret, étrange. Puis il faut ajouter à cela une culture toujours en éveil, une grande curiosité intellectuelle, universelle. Et depuis l'adolescence, Frédéric Ozanam avait déjà, je pense qu'il avait 17 ans si je me souviens bien, l'idée d'un grand ouvrage, un livre à réaliser au service de la religion catholique pour la défendre alors qu'elle était si grandement attaquée. Mais il était très brillant déjà à cet âge-là, il aurait pu le faire. Et il a essayé de réunir des gens autour de lui. Il avait un ascendant naturel d'ailleurs sur les autres étudiants catholiques. Et lui-même, Frédéric Ozanam, il s'en étonnait de cet ascendant qu'il avait. « On veut faire de moi, disait-il, une sorte de chef de la jeunesse catholique de ce pays-ci. » Et puis il n'acceptait pas ça facilement. C'est Jean Guiton, toujours ce philosophe qui vit toujours, philosophe catholique, résume parfaitement tout cela. Il dit « Mais ce je ne sais quoi est d'une toute autre essence et d'un autre ordre. Et il me semble qu'ici, Ozanam dépassait ses pères, ses égaux, là, même l'accordaire. » Et qu'il faut le placer dans le domaine de ce que nous nommons la sainteté. C'est tout un hommage que Jean Guiton lui rend. C'était un universitaire, je vous l'ai dit. En 1836, il a fait sa thèse de doctorat, n'est-ce pas, sur Dante. Mais le titre complet, c'est Dante et la philosophie catholique au XIIIe siècle. Elle a été remaniée en 1845. Cet ouvrage présente Dante comme l'expression la plus achevée de la chrétienté au triple plan littéraire, philosophique et religieux, c'est pas peu dire. Les cours de Frédéric Ozanam à la Sorbonne, vous savez ce que c'est la grande université française à Paris, sont très appréciés. Son idée, son propos, c'est de démontrer surtout la vérité du christianisme. En pleine Sorbonne, imaginez. Il fait des études comparatives avec les croyances religieuses et morales de l'Antiquité. 11 ans après sa thèse de doctorat, soit en 1847, il publie La civilisation au 5e siècle. Et coup sur coup, il publie Les germains avant le christianisme. 2 ans plus tard, il publie cet ouvrage qui a été retentissant, La civilisation chrétienne chez les Francs. Et finalement, l'année avant de mourir, il publie un livre que les franciscains aiment beaucoup et les adeptes de Saint-François d'Assise lisent encore aujourd'hui. C'est Les poètes franciscains en Italie au XIIIe siècle, donc à l'époque de Saint-François. On peut ajouter aussi les notes de voyage, parce qu'il a fait de nombreux voyages, puis sa correspondance. Tout ça vient d'être publié récemment. Il a été journaliste aussi. Avec l'abbé Marais, puis avec le fameux Lacordaire, je vous ai fait une émission déjà sur Lacordaire, qui a rétabli les dominicains en France. Eh bien, Ozanam fonde le journal L'Ère Nouvelle, en 1848, donc 5 ans avant sa mort. Son but, c'est de réconcilier le peuple et l'Église, puis faire passer l'esprit du christianisme dans les institutions républicaines, sortir le christianisme de ces petits lieux, qui sentent souvent le renfermer, la piété mal comprise, la religiosité mal comprise. Et ses idées maîtresses, personnelles, c'est qu'il veut répondre à l'exigence de justice voulue par Dieu. Dieu veut la justice. C'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ça. Lui, il en parlait déjà, puis avant lui, Saint-Vincent de Paul, puis avant Saint-Vincent de Paul, bien d'autres. Or, comme il prévoit qu'il va y avoir une explosion sociale très bientôt, il souhaite une véritable mise en valeur là, du monde ouvrier. Et d'autre part, il veut réconcilier la foi et la science, la religion et la politique, l'Église et la liberté. Puis il est alors attentif aux idées modernes et libérales défendues par Lamennais, puis il admire Chateaubriand et Lamartine. Puis en 1848, pressé par ses amis, il se présente aux élections à l'Assemblée nationale, puis il ne sera pas élu, mais son programme, audacieux, résulte d'une intuition vraiment prophétique, là, qui lui fait pressentir le fossé grandissant entre les forts et les faibles, les riches et les pauvres, et ça continue aujourd'hui, c'est toujours ce fossé grandissant entre les riches et les pauvres, on le voit, c'est abominable. Qu'est-ce qu'on pensait de lui? Il y a des belles choses. Lamartine disait de lui, il ressemblait par la physionomie, par l'âme, par la sérénité du regard, par le timbre monotone, affectueux de sa voix, à un brahme, vous savez les brahmes, c'est les prêtres hindous, là, à un brahme chrétien venu des Indes pour prêcher l'évangile de la science calme, de la contemplation mystique et de l'adoration extatique à notre monde de discorde et de contention. Et Lamartine ajoute, c'est très beau, il croyait, comme nous, que la vérité était à plus forte dose dans le cœur que dans l'esprit. Son orthodoxie parfaite, pour lui-même, était une charité d'esprit parfaite aussi pour les autres. Et sa tolérance n'était pas une concession, c'était un respect. Bon, on peut en citer d'autres, j'aimerais vous citer Giorgio Lapira. Vous savez, le maire de Florence qui est mort en 1977, il y a 20 ans. Toute son étude de l'histoire ainsi que sa méditation sur le christianisme ont été orientées dans une perspective de charité. Faire luire l'étoile de la grâce dans le cœur des hommes. Ambition immense mais merveilleuse à la mesure de sainteté. Or, comment ça a commencé tout ça à la Société Saint-Vincent de Paul, hein? Ça a commencé avec 6 étudiants provinciaux qui étaient exilés à Paris, disons, et qui se regroupent et puis qui décident de répondre à un défi. Le défi qui leur est lancé, on leur dit que les chrétiens parlent puis n'agissent pas. Et ces étudiants rencontrent un homme de 40 ans, Emmanuel Bailly, qui est propriétaire et rédacteur d'un journal, la Tribune catholique, puis lui va les aider. Puis il y a une rencontre, puis les conseils intelligents d'une sœur Rosalie Rendu, dont je vous parlerai un jour, une sœur de la charité. Puis là, ensemble, ils songent à s'unir, puis à former un groupe solide, là. Puis ils veulent maintenir l'unité indispensable à leur groupe pour pratiquer la charité morale et matérielle, soulager les misères des pauvres par la rencontre personnelle avec les pauvres. Et c'est alors que le 23 avril 1833, il y a une première conférence de charité qui prend naissance, et c'est le début de la Société de Saint-Vincent de Paul. Les 6 jeunes étudiants sous la conduite d'Emmanuel Bailly de 40 ans entreprennent de s'occuper des pauvres. Ils sont 6 jeunes donc autour de cet aîné. Je vous donne les noms et l'âge. Paul Lamache, L-A-M-A-C-H-E, 23 ans. Félix Clavé, Auguste Le Taillandier, Jules Deveau, tous 3 de 22 ans seulement. Frédéric Ozanam n'a que 20 ans. Et le dernier, François Lallier, de nom bien québécois, a 19 ans. Et dès l'automne de 1833, donc, le nombre de confrères a triplé. Ils ont commencé le 23 avril à 6. À l'automne, ils ont triplé. Un an plus tard, ils atteignent la centaine. Et la première conférence en province voit le jour à Nîmes. Nîmes, c'est entre Montpellier et Marseille, dans le sud. En 1834, l'année suivante, ce sera ensuite Lyon, Nantes, Rennes, Dijon, Toulouse, etc. Je vous fais grâce de tous les détails, je veux simplement vous donner des chiffres, c'est incroyable. Avant la fin de l'année 1835, je vous ai dit, ça a commencé le 23 avril 1833, donc avant la fin de l'année 1835, donc, ils sont 250. Et puis, ils sont... ils deviennent tellement nombreux, ça n'a pas de sens, hein? Un an plus tard, soit dès 1837, début de 1837, un peu plus d'un an plus tard, les conférences, il y en a 6 à Paris, puis les autres en province, totalisent 400 confrères, qu'on appelle aujourd'hui des Vincentiens en l'honneur de Saint-Vincent de Paul. Hein. Alors, le 4 février 1834, c'est donc simplement moins d'un an après la première réunion, sur proposition de M. Jean-Noël Leprévost, la conférence est placée sous le patronage de Saint-Vincent de Paul. Tout de suite, ça commence très tôt, comme vous voyez. Et ça, c'était la plus grande joie de M. Bailly, qui aime beaucoup Saint-Vincent de Paul, l'homme plus agile. Frédéric Ozanam lui propose d'y adjoindre la protection de la très sainte Vierge Marie. L'année suivante, en 1835, en février, pour faire face à d'autres situations dans d'autres quartiers de Paris, bien, le groupe devenu nombreux décide de se scinder en 2 conférences. On appelle ça toujours des conférences, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en province c'est en dehors de Paris, ça, mais le premier hameau qui est né, là, à Nîmes, comme je vous ai dit, se fortifie, puis là, la Société Saint-Vincent de Paul est vraiment née. Ça y est, ça marche. 1842-1850. Je vous fais un résumé. Les conférences voient le jour à Rome, puis en Belgique, en Écosse, en Irlande et en Angleterre. Puis aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada. Oui, ici. Et ce sera ensuite les Pays-Bas, la Turquie, la Suisse, l'Autriche, la Pologne. Le saviez-vous, tout ça? Mais ça n'est rien. Ce n'est qu'un début. Le mouvement se structure et se hiérarchise à l'intérieur et aussi dans les diocèses. Tout ça, c'est incroyable. Le 8 septembre 1853, ça fait 20 ans que ça a commencé. Et au décès de Frédéric Ozanam, qui meurt à 40 ans, comme vous savez, les conférences ont déjà essaimé, comme on dit, dans 17 pays. 11 pays en Europe, 2 pays en Afrique, 3 pays en Amérique, 1 en Asie. En Afrique, c'est en Algérie puis en Égypte. En Asie, ils appellent ça l'Asie, c'est assez curieux, c'est la Palestine. Alors en 1918, allons vite là, après la première grande guerre, là, bien, la Société de Saint-Vincent de Paul poursuit sa croissance. Où est-ce qu'ils vont? Imaginez, en Chine, au Japon, en Malaisie, en Indochine, en Birmanie, en Inde, au Ceylan, à Madagascar, en Afrique orientale, c'est fantastique. En 69, allons vite, en 1969, en France, il y a un mouvement de femmes qu'on appelle des Louises de Marillac. Qui est Louise de Marillac? Je vous ai déjà parlé d'elle. Sainte Louise de Marillac, c'est la compagne, si on peut dire, spirituelle évidemment, de Saint-Vincent de Paul. Bien, les Louises de Marillac s'unissent à la Société Saint-Vincent de Paul. Ils mettent ça en commun, mettent leurs moyens spirituels en commun, leurs moyens humains, les moyens matériels. Puis aujourd'hui, en 97, bon, je passe vite, vite, hein, en 97, mais dans le monde et sur les 5 continents, la Société de Saint-Vincent de Paul, qui est une œuvre laïque, hein, est à l'œuvre dans 130 pays. Il y a presque 50 000 conférences, puis regroupe pas loin de 900 000 membres. Ils vont approcher le million bientôt. En Afrique, il y a 39 pays. En Amérique, 33 pays. En Asie, 22 pays. En Europe, 27 pays. En Océanie, 9 pays. Je ne savais même pas qu'il y avait tant de pays en Océanie, finalement. Alors, c'est un mouvement de spiritualité qui n'a comme but principal que la charité. Le don de son temps aux plus pauvres. Le don de soi-même. La Société Saint-Vincent de Paul est aujourd'hui un vaste mouvement laïque, mixte, international, d'apostolat charitable et d'action sociale. La dimension spirituelle demeure une constante de l'engagement de ceux qu'on appelle les Vincentiens, en l'honneur de Saint-Vincent de Paul, les membres de la Société Saint-Vincent de Paul. Cet engagement qui puise dans une foi vive, puis une vie de prière, son inspiration, sa vigueur, sa fidélité. C'est Frédéric Ozanam qui le disait si bien. Il dit en quelques mots, c'est tout bref, que la charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire. On blâme souvent les catholiques, ils s'occupent des pauvres, mais ils changent pas les lois. Mais oui, il y a des catholiques qui vont pour changer les lois, mais c'est très difficile de changer les lois quand c'est tous les autres qui sont là. Hein. Et en somme, la Société Saint-Vincent de Paul participe par tous ses moyens humains et matériels, en étroite collaboration là, avec les pouvoirs publics et puis tous les gens qui sont en place, là, à cet effort de tout le monde pour remédier aux causes des de tous ces malheurs qu'il y a dans la société, puis pour faire évoluer aussi toute cette organisation sociale dans laquelle nous sommes. Les membres de la Société Saint-Vincent de Paul, les Vincentiens, trouvent la plénitude de leur engagement dans un service personnel direct, total et permanent des plus démunis. Un membre de la Société Saint-Vincent de Paul, comme Frédéric Ozanam, comble les insuffisances de la société par l'amour gratuit. C'est l'amour gratuit qui les anime. Et pour y arriver, bien, le Vincentien invite Frédéric Ozanam à venir plus vivant devant lui. La béatification va le rendre plus vivant devant le Vincentien. Il va pouvoir l'imiter davantage. Parce que le Vincentien, comme Frédéric Ozanam, a deux maîtres, M. Vincent et Saint François d'Assise. Pour comprendre ça, il faut peut-être tout d'abord se poser quelques questions. Comment approcher le visage de Frédéric Ozanam sans le comprendre vraiment? Pour le comprendre, il faut entendre sa voix à travers toutes celles du 19e siècle. Il y a un grand secret dans cette figure du bienheureux Frédéric Ozanam. À travers une vie brève, 40 ans, de 1813 à 1853, il a laissé un témoignage et un testament spirituel qui, c'est évident, ont enrichi le patrimoine culturel de l'Église, font honneur à l'Église catholique. Une vie ne se mesure pas à la longueur des années, c'est sûr. Ce qui compte, c'est l'esprit qui l'anime. Mais c'est bien le cas pour Frédéric Ozanam. Il est tout à la fois un universitaire brillant, un intellectuel, exigeant, un poète aussi raffiné, un homme politique, un visiteur des pauvres, un chrétien passionné. Il y a deux lieux qu'on peut dire qui scandent sa vie. Il y a l'amphithéâtre à l'université, à la Sorbonne, puis la rue Mouffetard, où il y a les pauvres, dans le quartier Saint-Marcel. À travers ces deux endroits, Frédéric Ozanam va trouver l'unité de sa vie. C'est là qu'il rencontre le Christ, qui sont les pauvres. Ce sont ses co-héritiers. Lui qui devient un peu comme un autre Christ parmi les pauvres, qui sont des Christs pour lui. Ils sont le Christ. Autrement dit, il va faire l'expérience chrétienne fondamentale et unique de la charité qui est quoi? L'amour de Dieu. Ça nous a été dit hier dans l'Évangile à la messe. Et l'amour des autres, c'est encore dans l'Évangile. Les autres, en premier lieu, les pauvres. Alors, il y a deux visages qui surgissent vivants, lumineux dans sa vie. Il y a sa sœur Elisa, son père, Antoine, auprès de sa mère, puis surtout de sa sœur Elisa. Le petit Frédéric est entré dans une atmosphère familiale modeste, simple. Et sa sœur Elisa lui apprend l'histoire sainte. On faisait ça quand j'étais jeune, puis la vie des grands saints de l'Église, comme on fait à cette émission-ci depuis plus de 2 ans. Et en un seul mot, on peut dire que Frédéric découvre les livres, il ne les quittera plus jamais, ça va être ses compagnons de route. Il dit d'ailleurs dans une lettre le 5 novembre 1836, « J'ai envie de rendre grâce à Dieu de m'avoir fait naître dans une de ses positions, une famille sur la limite de la gêne et de l'aisance. » Qui m'a habitué aux privations sans laisser absolument ignorer les jouissances, où l'on peut s'endormir dans l'assouvissement de tous les désirs, mais où l'on n'est pas distrait non plus par les sollicitations continuelles du besoin. Alors de son père, Antoine Ozanam, Frédéric garde le souvenir du médecin des pauvres, des quartiers populaires de Lyon. Il a un bel exemple dans son père. Puis à travers cette image du père, c'est déjà, on peut dire, le mystère de la charité qui l'imprègne. La charité, telle que la dépeint Jésus lui-même dans l'Évangile de Saint Matthieu, « J'étais malade et vous m'avez visité. » Et à ces deux visages, inoubliables, Elisa, sa sœur et son père, eh bien, s'enracine une intuition vivace de la mort. Cette chère sœur, la mort corporelle, comme Saint François le disait, quand il allait mourir. Et ça va rester la compagne fidèle de toute sa vie. À l'âge de 6 ans, Frédéric avait d'ailleurs été victime des fièvres typhoïdes. Puis ça avait risqué de l'emporter. Il faillit mourir. Il guérit, mais il a toujours été marqué par la présence de la mort. C'est comme une vieille locataire pour lui. C'est un soleil, des fois. mais des fois, c'est une ombre sombre. Ça va le guider comme André Malraux dans... à travers les vieilles civilisations de l'Europe et en particulier de l'Allemagne. Et il y aura une frénésie de tout apprendre, de tout savoir, de tout comprendre, de tout lire, d'écrire, tout ce qui peut être écrit. Curieux pour un homme qui veut s'occuper des pauvres, c'est un grand intellectuel, et c'est en cru ça le désir violent d'échapper au temps qui risque de l'ensevelir. La vie qui est trop courte, c'est trop court la vie, Il veut tout faire, et Frédéric Ozanam, qui est proche de M. Vincent Saint-Vincent-de-Paul, puis on peut se demander comment ce prêtre français du XVIIe siècle a pu être à ce point le modèle de vie de ce grand universitaire. La réponse semble claire. D'une part, c'est la défense de la foi, puis d'autre part, le service des pauvres. Et le jour de la fête liturgique de Saint-Vincent-de-Paul, l'Église prie avec ces mots, qui sont simples et très beaux, que c'est beau la liturgie de l'Église. Il y a cette oraison qui commence comme ça. « Seigneur, tu as donné à Saint-Vincent-de-Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. » Et là, il y a deux axes pour le... Marc Saint-Vincent, Frédéric Ozanam, devant une jeunesse étudiante qui est issue d'une bourgeoisie marquée par Voltaire, une jeunesse qui est arrogante et anticléricale, un peu comme une grande partie de notre jeunesse aujourd'hui, mais Ozanam va tout d'abord défendre la foi catholique. Il va aussi s'efforcer de mettre toutes ses puissances à l'œuvre pour l'exposer dans un commentaire magistral, comme je vous ai dit tout à l'heure, et Ozanam dépasse finalement tout ça pour devenir un catéchiste, tout simplement. La défense de la foi est d'abord l'exposition quoi? L'exposition claire de son contenu. Dans le mystère insondable de sa richesse puis de sa beauté, il ne faut pas cacher ça. Et Vincent de Paul, lui, en ouvrant des séminaires pour la formation des futurs prêtres, il a le même souci, lui aussi, de l'évangélisation des intelligences et des cœurs de ses contemporains. Alors Vincent de Paul et Ozanam, quelques siècles plus tard, ont tous deux la même énergie pour annoncer l'Évangile, de l'énergie pour annoncer l'Évangile, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et cette annonce est une nécessité absolue. Une nécessité absolue qui ne supporte aucun retard. Faut pas dormir. Faut pas s'inquiéter inutilement, ça donne rien. Il faut aimer les autres. Et c'est d'abord leur apporter l'Évangile quand on les aime. Leur ouvrir le cœur et l'intelligence aux paroles brûlantes de Dieu. La foi. C'est le sommet de l'activité de l'intelligence, mais ça suffit pas. Alors, au cours d'un de ces débats contradictoires, il y a une critique simple et naïve qui jaillit, puis là va s'épanouir l'autre aspect de sa spiritualité, c'est le service des pauvres. Je vous l'ai raconté tout à l'heure, mais là, je vous l'explique en détail. Une voix dans un amphithéâtre, la Sorbonne, devient servante, finalement, du Saint-Esprit. Comment ça? Parce que le gars, dans l'étudiant, là, il dit, vous avez beau jeu, vous, les chrétiens, de parler de charité, mais en fait, que faites-vous? Alors, cette apostrophe à Ozanam, qui est bien naturelle, on l'entend souvent, mais qui va devenir une parole de vie puis de conversion pour Frédéric Ozanam, ses amis, mais la lumière jaillit, là. Et puis l'entreprise chrétienne, sans les œuvres, était incomplète. Alors, le premier évêque de Jérusalem, vous savez qui c'est, Saint-Jacques, oui, Saint-Jacques le Majeur, il l'a dit solennellement dans son épître, qu'il faut lire, la foi sans les œuvres est morte, la foi sans les œuvres, la foi qui n'est pas pratiquée dans le concret, c'est mort. On vient de publier une belle traduction d'un livre de Divo Barsotti chez l'éditeur Teki, un petit livre de 100 pages que je vous recommande. Ce sont des méditations sur l'épître de Saint-Jacques. C'est paru il y a 5 mois à peine, un tout petit livre. Divo Barsotti, méditations sur l'épître de Saint-Jacques. Tout le monde devrait lire ça, parce que c'est une des clés du Nouveau Testament. Alors les portes de l'Évangile se sont donc ouvertes toutes grandes. Il s'agit de descendre dans la rue, puis de rencontrer les pauvres, de devenir leurs serviteurs, de passer des paroles aux actes, et Frédéric Ozanam et ses compagnons se mettent en quête des pauvres. Alors, de l'amphithéâtre de la Sorbonne, il faut descendre. Dans la rue du quartier Mouffetard, au faubourg Saint-Marcel, c'est un quartier pauvre et mal famé, où il convient d'évoquer la figure impressionnante et providentielle de sœur Rosalie Rendue, fille de la charité. Un jour, je ferai toute une émission sur elle. Il faut bien parler, elle est le pilier, et à travers elle passe la grâce de M. Vincent, qui est le fondateur de sa congrégation. Elle leur fait découvrir puis rencontrer les pauvres. Allons donc, et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés, dit-il. Reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. Alors Frédéric Ozana, en suivant Sœur Rosalie à la rencontre des prostituées, des ivrognes, puis des marginaux, puis de tous les clients de la rue Mouffetard, un quartier pauvre, et bien Frédéric Ozana et ses compagnons entrent dans ce qu'on peut appeler la réalité de la foi chrétienne. Ils sont décidés de mettre en pratique clairement leur foi. Ils entrent dans ce qu'on a appelé, dans ce qu'on appelle toujours de plus en plus, l'option préférentielle pour les pauvres. Mais je n'oublie jamais que bien des pauvres sont riches parce qu'ils sont pauvres de cœur. La convergence de ces deux réalités fondamentales laisse surgir le mystère de la charité. Mystère de la charité, on sait bien, il n'y a pas d'autre expérience chrétienne que celle de la charité. Le christianisme sans charité, c'est saint Paul qui le dit, c'est comme une cymbale retentissante. Il n'y a plus rien, c'est vide, coquille vide, qui ne sait pas de charité. Le cœur de l'homme trouve sa propre cohérence dans l'ouverture à l'amour de Dieu, puis évidemment dans la bienveillance fraternelle. Et depuis que saint Jean l'évangéliste a levé les yeux vers son ami Jésus crucifié, qui ruisselait de miséricorde, puis était si accueillant pour le bon larron, tout est récapitulé dans l'offrande d'amour qui est présentée par le Christ Jésus à son Père, au nom de tous et de chacun. C'est en s'unissant à lui dans la messe que nous nous offrons nous-mêmes à notre Père dans un grand geste d'amour qui entraîne toute l'humanité dans les bras du Père, dans l'amour, dans la libération de la platitude et de la bêtise. Et c'est à ce degré d'expérience chrétienne que fait la rencontre avec l'autre, notre maître de Frédéric Ozana, saint François d'Assise. Saint François d'Assise, hein, qu'on peut appeler le mendiant du XIIIe siècle. Alors Frédéric Ozana, qui a une santé fragile, a une soif de vivre intensément. Il appartient à la génération peut-être des romantiques de la première moitié du XIXe siècle. Mais il semble se rattacher à ce qu'on appelle le mysticisme méditerranéen. Sa première œuvre, son testament spirituel, puis son ultime hommage à la culture puis au génie littéraire, je vous en ai parlé tout à l'heure, Les poètes franciscains en Italie, paru l'année avant sa mort, ça nous met clairement dans cette vision des choses. Et après cette expérience qu'on pourrait dire solaire, auprès de Saint-François, le Ozana imprègne son âme de toute la divine rencontre avec, vous savez, le lépreux d'Assise. Souvenez de cette scène, François se promène dans la campagne d'Assise, il entend la crécelle d'un lépreux, puis son premier réflexe naturel, c'est de s'enfuir pour ne pas voir l'horreur. Il est retenu sur place par il ne sait pas quelle force. Il attend le lépreux. Il s'approche de lui, puis il l'embrasse. La rencontre est intense entre Saint-François puis le lépreux. Puis 20 ans plus tard, il est retiré dans le couvent de Cortone, pauvre François d'Assise, il est malade, il est presque aveugle, en écrivant son testament, puis il revoit la scène, puis il est persuadé que ce baiser au lépreux, c'est quoi? C'est une accolade au Christ Jésus. Et il écrit, voici comment, c'est comme ça que commence son testament, hein? Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Quand j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je les soignai de tout mon cœur. Et quand je les quittais, ce qui m'avait semblé amer s'était changé pour moi en douce douceur, en douce douceur, pour l'esprit et pour le corps. Et ensuite j'attendis peu et je dis adieu au monde. Alors Frédéric Ozana m'a considéré ce passage de la vie de saint François comme la manifestation éblouissante de la tendresse de Dieu pour les pauvres. Alors, c'était une force qui venait du ciel, de Dieu, qui pousse François, en embrassant ce lépreux vagabond, à embrasser toute la pauvreté du monde, puis de faire de cette pauvreté sa dame et sa demeure. Et Frédéric Ozanam écrit, « En même temps que le pénitent d'Assise, dans la contemplation de la croix, apprenait à aimer Dieu, il commençait à aimer aussi l'humanité crucifiée, dénuée, souffrante. Et c'est pourquoi il se sentait poussé vers les lépreux, vers les misérables, vers tous ceux que le monde repousse. » Alors, dans cette ténèbre lumineuse, parfois, du 23 avril 1853 à Pise, où il a failli mourir, Ozanam écrit sa dernière œuvre, c'est son testament. Il pense à cette parole, « Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Alors, le 8 septembre 1853, celui qui avait tant de fois enseigné dans toutes les grandes universités d'Europe, presque, et qui avait réveillé tant de consciences tièdes et endormies, résume sa vie en trois mots. Je l'aime tant. Frédéric Ozanam aurait pu dire ces paroles prêtées à M. Vincent à l'aube du 27 septembre 1760. On les entend dans le film sur M. Vincent, c'est sort de la bouche de Pierre Frenet, l'acteur Davantage. Vous vous souvenez de ça peut-être? Ou encore, il aurait pu chanter avec son frère Saint-François, « Noué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle. » Mais rien de cela. Hein? Tout simplement, c'est ce qu'il a reçu de Saint-Vincent puis Saint-François d'Assise, hein? Dans le lent dépouillement qui a été exigé par l'amour, Frédéric Ozanam dit bien, « Je l'aime tant. » Il a déjà dit, Frédéric Ozanam, et je cite cette parole avant de vous quitter, « L'Église est une société fermée. L'Église est une société formée pour l'accomplissement des destinées immortelles du genre humain. » Comprenez-vous ça? Présente dans tous les lieux et dans tous les âges, l'Église rassemble toutes les âmes qui veulent marcher sous ses auspices. Elle les accompagne dans leur course et jusqu'au-delà du tombeau. L'Église catholique réunit dans une alliance mystérieuse les générations qui sont encore dans les combats de la vie actuelle, celles qui traversent les expiations de la vie future ou qui reposent dans ses triomphes au ciel. L'Église se meut dans l'infini.